Bonsoir à toutes et à tous. Un appel à l'aide étonnant signé Emmanuel Macron en déplacement aux Antilles françaises. Hier soir à Fort-de-France, le chef de l'État s'est montré sur la défensive et beaucoup moins jupitérien. Ce qui est assez inhabituel pour être souligné et analysé. Stéphane Robert dans ce studio s'y attelle dans un instant. L'actualité en France, c'est aussi à Paris le procès dit des revenants, un père et son fils interpellés il y a 3 ans sur le trajet de leur retour de Syrie. Ils sont jugés depuis hier pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Le jugement est attendu dans la soirée. Florence Turm nous attend au palais de justice de Paris. Aux États-Unis, une scène assez incroyable dans les couloirs du Capitole à Washington où des militantes féministes ont pris à partie un sénateur républicain de l'Arizona qui s'est retrouvé à court d'arguments pour justifier son vote à venir en faveur de la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, explication de Grégory Phillips. Et puis l'enquête de cette édition sur les agissements de l'Office culturel de Cluny, qui se présente comme une association religieuse à but culturel, mais que beaucoup accusent de dérive sectaire. Enquête à suivre de Cécile de Kervas-Douy. Quand Jupiter appelle à l'aide et se sent peut-être moins porté par les événements et par la conjoncture, c'est en déplacement aux Antilles, sur les hauteurs de Fort-de-France, de retour de New York, qu'Emmanuel Macron a lancé cet appel surprenant dans sa bouche. Aidez-moi, aidez-moi, car pour expliquer l'action de l'exécutif, j'ai besoin de vous, journalistes, population, élus. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Benoît.
Alors on n'est pas là pour aider le chef de l'État, mais plus sûrement pour décrypter, analyser les contours de son discours. Faut-il voir là, Stéphane, pour la première fois aussi clairement exprimé, un aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron ?
Déjà, il y a un contraste saisissant avec les propos qu'Emmanuel Macron avait tenus au cœur de l'été, le 25 juillet dernier. Il s'était rendu à une soirée organisée par les parlementaires La République En Marche à Paris pour évoquer devant eux l'affaire Alexandre Benalla.
Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable...
À quelques semaines d'écart, vous voyez que la différence est frappante. Le chef de l'État avait alors montré le visage d'un homme qui peut affronter toutes les tempêtes et qui n'a besoin de personne. Aujourd'hui, changement de pied complet, donc le président lance cet appel « Aidez-moi » en direction des journalistes, de la population, des élus. Mais ce n'est pas complètement nouveau. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. En avril 2018, par exemple, devant les Français expatriés aux États-Unis, réunis à l'ambassade de France à Washington, il avait lancé cet appel.
J'ai besoin de vous. J'ai besoin que de là où vous êtes chaque jour, vous preniez votre part de responsabilité, que vous portiez les valeurs de la France, que vous défendiez les intérêts de la France.
Même chose il y a un peu moins d'un an, en novembre 2017, au Congrès des maires de France.
J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en ce que vous portez dans la République, parce que vous avez décidé de vous engager. Et de cela, je vous en remercie, mais j'ai besoin de vous parce que le pays ne se redressera pas avec l'action de quelques-uns.
Alors que ce soit au Congrès des maires l'année dernière, que ce soit aux États-Unis, au moment où Donald Trump commençait à montrer qu'il faisait finalement peu de cas de la France et de son ami français, ou encore que ce soit aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron connaît un trou d'air dans les enquêtes d'opinion, ses appels à l'aide et au soutien de son action semblent surgir à l'occasion de situations délicates, difficiles. Dès lors, on peut se demander s'il s'agit de retournements tactiques pour essayer d'amadouer ou de se concilier ceux à qui il s'adresse, ou bien si c'est le fruit d'un véritable questionnement et d'une remise en question. En tout cas, ça semble être le signe que les choses lui échappent, qu'il ne maîtrise pas totalement la situation.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Emmanuel Macron appelé à l'aide, lui aussi, en retour par les professionnels de la viande, très inquiets, et qui demande au chef de l'État une intervention immédiate, quelques heures après qu'un abattoir a été détruit par un incendie d'origine vraisemblablement criminelle dans le département de l'Ain, c'était la nuit dernière. Les présidents des interprofessions des viandes porcines et bovines se disent victimes d'une violence de type sectaire. Ils sont rejoints ce soir par les principaux syndicats agricoles. Le procès dit des revenants devant le tribunal correctionnel de Paris se termine ce soir. 2 hommes, un père et son fils, sont poursuivis pour association de malfaiteurs à visée terroriste depuis leur interpellation sur la route du retour de Syrie en 2015. Leur profil intrigue et inquiète les enquêteurs. En possession d'importantes sommes d'argent et de documentation sur les explosifs et le pilotage d'avions, ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre des attentats et comparaissent détenus depuis hier. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Depuis quelques minutes, on connaît, Florence, le réquisitoire du ministère public ?
Oui, la procureure de la République a requis le maximum prévu en correctionnel, 10 ans d'emprisonnement assorti d'une peine de sûreté des deux tiers à l'encontre des deux prévenus, père et fils, sans distinction. C'est pour moi, dit-elle, le dossier de la grande illusion. Face au tribunal, l'autre fils Souli a affirmé être parti en Turquie pour accompagner son fils voir un ami, accepter une invitation à traverser la frontière, avoir été emprisonné par le groupe État islamique. Il dit avoir été torturé, mais on n'a constaté aucune blessure physique, reprend la procureure. En Syrie, les gens qui ont commis des adultères se retrouvent la tête tranchée et lui, suspecté d'être un espion, repart avec un bon de sortie. En réalité, Lotfi Souli a mis ses compétences au service de l'organisation terroriste. À l'appui de sa démonstration, il y a encore ces 7000 messages échangés avec les proches. « On mange bien, on est bien, on s'entraîne », écrit le prévenu à sa fiancée. « Tu ne peux pas imaginer la douceur du djihad, le bonheur de vivre avec l'importance de mourir pour Allah. » Mais une question me taraude, poursuit la magistrate. « Qu'a donc promis M. Souli à l'État islamique en échange de sa vie sauve ? D'où viennent ces 12 000 euros retrouvés sur lui au retour ? Matériel informatique truffé de propagande et de documentation sur le maniement des armes, la fabrication d'explosifs, ce disque dur qu'il explique avoir volé pour permettre à ses fils de jouer à des jeux vidéo. Votre peine, conclut-elle, devra tenir compte des zones d'ombre de ce dossier. L'attitude des prévenus au cours de cette audience n'a effectivement pas permis de préciser clairement quelles étaient leurs intentions et leurs éventuels projets à leur retour en France.
Merci Florence Turm. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans la soirée. Justice toujours, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a justifié tout à l'heure l'intervention d'Emmanuel Macron dans le dossier épineux de la nomination du prochain procureur général de Paris. Cette semaine, le chef de l'État a rejeté les noms de trois prétendants proposés par la chancellerie, ce qui est tout à fait normal pour la garde des Sceaux. Le mot d'intervention, d'ailleurs, n'est pas opportun, estime Nicole Belloubet, préférant parler d'un dialogue avec le chef de l'État, et ajoutant qu'il n'est pas nouveau que les procureurs soient nommés par décret du président de la République. Déclaration faite tout à l'heure en marge du congrès de l'Union syndicale des magistrats à Pau. Aux États-Unis, les sénateurs républicains restent sous le feu des critiques au lendemain de l'audition du juge Brett Kavanaugh, consécutive à des accusations d'agression sexuelle. Le processus de sa nomination à la Cour suprême suit son cours. La commission judiciaire du Sénat devrait ce soir valider cette nomination, qui ne pourra toutefois être effective qu'après un vote définitif du Congrès la semaine prochaine. Mais la détermination de manifestantes pour le droit des femmes vient perturber le processus. Tout à l'heure, un parlementaire de l'Arizona s'est retrouvée prise à partie par des militantes et finalement bien incapable de justifier son vote en faveur de Kavanaugh. La scène dans les couloirs du Capitole à Washington a été filmée, elle est édifiante. Grégory Phillips.
Le sénateur Jeff Flake de l'Arizona, considéré comme un républicain modéré, vient d'annoncer qu'il votera oui à la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. L'audition d'hier me laisse avec autant de doutes que de certitudes, écrit le parlementaire dans un communiqué. Quelques minutes plus tard, Flake quitte son bureau, mais dans l'ascenseur qui doit le mener à la commission judiciaire du Sénat où a lieu le vote, deux manifestantes lui tombent dessus et pendant 4 minutes et 37 secondes lui demandent de s'expliquer.
Sénateur Fleck, lundi après-midi, j'étais devant votre bureau pour témoigner du fait que moi aussi j'ai été agressée sexuellement. Je l'ai fait parce que, en entendant témoigner le docteur Christine Blasey Ford, je sais qu'elle dit la vérité. Vous avez des enfants, pensez à eux. Moi j'ai deux enfants, je n'arrive pas à croire que pour les 15 prochaines années, ils auront à la Cour suprême quelqu'un qui a été accusé d'agresser une jeune fille. Mais qu'est-ce que vous faites ? Monsieur, regardez-moi dans les yeux et ne me dites pas que ça ne compte pas ce qui m'est arrivé.
Jeff Flake est livide, comme sonné. Il ne bredouille que quelques mots avant finalement de réussir à sortir de l'ascenseur. La voix du sénateur de l'Arizona va en tout cas permettre au juge Kavanaugh de se présenter maintenant devant le Sénat, réuni en séance plénière, qui la semaine prochaine procédera au vote définitif.
Voilà, et ce soir, le vote de la commission judiciaire du Sénat aura lieu à 19h30, heure française. Aux États-Unis, toujours, le fabricant de voitures électriques Tesla a perdu beaucoup de sa valeur à Wall Street aujourd'hui. L'entreprise est plus que jamais dans la tourmente depuis que le gendarme des marchés financiers a accusé son patron Elon Musk de fraude, c'était hier soir. C'est la suite de l'affaire du tweet d'Elon Musk annonçant un arrêt de la cotation de l'entreprise qui finalement n'a pas eu lieu. Le titre de Tesla a perdu dans la journée jusqu'à 12% de sa valeur à Wall Street. Recep Tayyip Erdogan en mission réconciliation en Allemagne aujourd'hui. Le président turc qui avait dénoncé il y a 2 ans les pratiques, je cite, « nazies » du gouvernement allemand, est venu pour tenter de resserrer les liens entre les deux pays traditionnellement proches. Cette visite est d'ailleurs une visite d'État. Après avoir été reçu plutôt froidement par le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, Erdogan a pu tenir une conférence de presse commune avec la chancelière Angela Merkel. Conférence qu'a suivi notre correspondant permanent à Berlin, Ludovic Piétenu.
30 minutes, pas une de plus. Les deux dirigeants insistent sur l'importance de resserrer les liens. La situation en Syrie est toujours fragile, précise la chancelière, notamment à Idlib, qui annonce leur souhait d'organiser tous deux avec les présidents français et russes un sommet au mois d'octobre. Quelques regards courtois sont échangés entre les deux dirigeants, mais la presse venue en très grand nombre à la chancellerie a d'autres sujets en tête. Seulement 4 questions accordées aux journalistes, un seul thème, comment la Turquie entend mieux respecter les droits humains. Quand seront libérés les 5 citoyens allemands emprisonnés? Merkel explique qu'ils en ont parlé précisément, elle évoque même de grands pas en avant tout en nuançant, ça va prendre encore un peu de temps. Erdogan lui appelle à respecter la justice turque comme il respecte la justice allemande. Sans jamais perdre son calme, le président turc se permet même de jeter un caillou dans le jardin de la chancelière en demandant l'extradition vers la Turquie de 69 personnes se trouvant en Allemagne, dont l'emblématique journaliste turc Can Dündar, directeur du quotidien Cumhuriyet, qui a trouvé asile à Berlin depuis 2 ans et le coup d'état manqué en Turquie. Cet homme, dit Erdogan, est une personne qui doit être en prison car elle a révélé des secrets d'état.
Reportage de Ludovic Piétenu à Berlin. Retour en France dans ce journal. En France où de nombreux rassemblements sont prévus ce soir, comme d'ailleurs dans le monde, à l'occasion de la journée mondiale pour la défense du droit à l'avortement, l'occasion de célébrer pour les militants d'Oser le féminisme la victoire récente en Irlande qui vient de légaliser l'avortement et de faire le point sur les combats encore à mener pour un accès universel à l'IVG dans de nombreux pays du monde et également en France. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Benoît.
En France où les inégalités territoriales dans l'accès à l'avortement sont encore et toujours constatées.
Dans la Sarthe par exemple, l'hôpital du Bailleul près de la Flèche a suspendu son activité IVG pendant 9 mois. Les femmes faisaient 50 km pour aller avorter au Mans ou à Angers. La semaine prochaine, l'activité reprend au Bailleul. L'hôpital a réussi à s'organiser sur 4 gynécologues et demi, le 5e étant à mi-temps. 3 évoquent toujours la clause de conscience pour ne pas pratiquer d'IVG, c'est leur droit. Le 4e était parti à la retraite et le 5e à mi-temps donc ne pouvait pas assurer seul les avortements, disait-il. À présent, ce praticien est passé à plein temps et l'hôpital va mobiliser des sages-femmes, comme l'autorise la loi, pour rouvrir le service d'orthogénie. Avant d'en arriver là, la direction a voulu recruter un gynécologue pour remplacer celui parti à la retraite. En vain, c'est donc avant tout un problème de démographie médicale qui explique cette tension locale.
Et néanmoins, Tara, on voit bien que 3 praticiens sur 5 qui invoquent la clause de confiance, cette fameuse clause de confiance, cela peut aussi poser un problème.
Clause de conscience, oui, une controverse existe sur le sujet, mais pour Bertrand de Rochambeau, qui préside le Syngof, principal syndicat de gynécologues, le vrai problème est celui des moyens.
Déjà, les maternités publiques sont en difficulté financière, mais dans l'organisation de ces services, l'orthogénie vient toujours en dernier après les salles de naissance, les diagnostics anténataux, tous les autres services qui sont rendus.
En termes de budget, vous voulez dire ?
En termes de budget, pourquoi on va plus à l'hôpital qu'en ville ? C'est qu'il faut faire une interruption volontaire de grossesse plus tardive. C'est un acte chirurgical qui n'est pas commode. Et il faut du bon matériel, des échographies adaptées. Et bien, quand on court après le matériel, qu'on est la dernière roue du carrosse, il n'y a pas forcément les bons échographes, les meilleurs. Il risque d'avoir de l'imagerie ou du matériel qui manque et il faut qu'il se débrouille.
D'accord.
C'est le quotidien des services qui sont sur la corde raide.
L'IVG est en plus un acte mal rémunéré, rappelle le président du Syngof. En revanche, la loi Veil est bien faite et ses 3 articles indissociables.
Le premier consacre une interdiction absolue de porter un terme à la vie. Le deuxième, par exception, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée dans les conditions définies par la loi. Et le troisième, c'est on ne peut pas forcer aucun soignant à faire une interruption volontaire de grossesse. Ceci est appelé la clause de conscience spécifique. Ces 3 articles ont permis de voter la loi. Ils constituent un pacte social qui a permis qu'on avance sur ce problème qui était des avortements clandestins. Et donc, supprimer un de ces 3 alinéas, c'est détruire l'équilibre qui a fait ce pacte social, qui nous permet d'offrir ce service aux femmes dans tous les hôpitaux publics de France.
Bertrand de Rochambeau avait déclaré mi-septembre que lui-même invoquait cette clause de conscience et ne pratiquait pas d'IVG, des propos tenus à titre personnel. Hier, le Saint-Gov, son syndicat, a réaffirmé son soutien au droit à l'avortement, droit incontestable et incontesté, dit le communiqué, qui rappelle aussi que cette clause de conscience doit être défendue.
Merci, Tara Schlegel. 18h15 sur France Culture, l'heure de retrouver notre enquête du vendredi soir avec le service investigation de Radio France. Enquête consacrée ce soir aux méthodes et aux fonctionnement surprenant de l'Office culturel de Cluny, organisation culturelle avec pignon sur rue partout en France. Son nom, toutefois, est peu connu. La trentaine de structures qui s'y rattachent n'y font que très rarement allusion, ce qui ne les empêche pas de proposer des expositions, des ateliers, notamment pour les enfants, en étant soutenus et subventionnés par les pouvoirs publics. Bonsoir Cécile Le Carvaz-Doué.
Bonsoir.
L'Office culturel de Cluny est montré du doigt depuis 40 ans pour d'éventuelles dérives sectaires et vous avez enquêté sur ces pratiques.
Oui, d'un côté, vous avez effectivement une association de théâtre créée en 1964 à Paris et qui a progressivement généré toute une galaxie de structures culturelles sous des noms différents. Elle propose donc des spectacles, des expositions, des ateliers pour les jeunes. Mais ce qu'elles disent rarement, c'est qu'elles sont issues de l'Office culturel de Cluny et qu'elles suivent donc ses principes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme une communauté religieuse. Corinne est metteur en scène. Elle a passé 20 ans au sein de cette organisation mi-culturelle, mi-religieuse.
J'ai tout envoyé balader pour me consacrer au théâtre. Et puis petit à petit, le responsable m'a dit « Écoute, il y a comme des vœux, mais c'est comme au monastère. Regarde, on s'engage. Alors il y a vœux de chasteté, vœux de pauvreté et vœux d'obéissance. »
Oui, le problème, c'est que cette communauté n'est pas reconnue par l'Église. D'où les soupçons de dérive sectaire qui l'accompagnent depuis 1982. D'autant que dans la communauté, il y a aussi mise en commun des biens. Mais c'est un choix personnel, se défend Claire Fabre, qui en est membre depuis 40 ans.
Moi, j'ai fait un choix de l'usage de mes biens au service d'un bien commun et d'une action culturelle. Ce sont les rémunérations des uns et des autres qui sont mises dans un compte joint pour assumer les charges de la vie personnelle commune que nous avons.
Alors, grâce à ce fonctionnement, la communauté s'installe dans des châteaux. Celui de Machy, par exemple, dans le Lyonnais, le domaine de Tournefou, dans l'Aube, ou celui de Châtresac, en Charente-Maritime. Ce sont les membres de la communauté qui rénovent ces propriétés et qui en payent le prix fort, donc, s'insurge Jean-Luc Grasset, un ancien clunisien.
Ils préféraient investir dans la pierre plutôt que de payer des cotisations sociales pour les gens, quoi. Les soins basiques chez les médecins, ils n'étaient même pas pris en compte par la sécurité, rien du tout. Il y avait un assureur complaisant qui avait accepté de faire une couverture sociale, mais pour lequel il fallait payer le double pour le gourou.
À cela s'ajoute aussi un bénévolat revendiqué, puisque la communauté travaille sans toujours être rémunérée. Cette pratique, la justice a fini par la sanctionner en décembre dernier. La Cour d'appel de Paris a condamné l'Office culturel de Cluny à verser 1 million d'euros à 21 anciens membres privés d'une retraite convenable. Depuis, l'association a été placée en liquidation judiciaire.
Alors ça c'est une chose Cécile, mais il y a d'autres dérives.
Oui, en février dernier, le fondateur de l'Office culturel de Cluny, Olivier Fenoy, a été accusé d'abus sexuels sur plusieurs jeunes adultes par d'anciens membres de la communauté. Martin, une de ses victimes présumées, m'a raconté ce qu'il avait vécu.
Tous les abus sexuels étaient accompagnés de délires mystiques avec une petite phrase d'évangile qu'on va citer. « Jean, le disciple que Jésus aimait. Je t'embrasse sur la bouche parce que Jésus a fait pareil avec quelqu'un en lui communiquant la salive. » Et puis, s'il se trouve devant quelqu'un qui est là vraiment engagé pour tout le temps, alors là, ça va jusqu'au bout.
L'affaire étant prescrite, il n'y a pas eu de poursuite. Mais ce qui peut surprendre, c'est que malgré toutes ces révélations, finalement, la trentaine de structures de cet office culturel de Cluny continue d'accueillir des enfants, de recevoir des subventions publiques et d'avoir également la caution d'organismes prestigieux. La cartoucherie de Vincennes, par exemple. Cette semaine, elle devait accueillir les représentations du théâtre de l'Arc-en-Ciel, c'est-à-dire la troupe historique de cet office culturel. Mais elle a décidé de tout annuler quand sa fondatrice, Ariane Mouchkine, a découvert qu'elle avait affaire à une communauté à caractère religieux.
Certains catholiques noyotent le théâtre public, ça veut dire qu'ils sont très forts. Hein. Et je pense en plus que leur méthode est la même d'une certaine façon que les frères musulmans, c'est-à-dire remplir les vides, aller vers les plus pauvres, comme ils disent. Je pense qu'il y a une remise en question de la laïcité qui est gravissime.
Alors je précise que j'ai cherché à joindre le fondateur de l'Office culturel de Cluny, Olivier Fenoy, mais qu'il n'a pas souhaité me rencontrer. Les quelques responsables que j'ai pu voir insistent pour dire qu'il a quitté aujourd'hui toutes ses fonctions et que leur religion reste une affaire privée.
Merci Cécile Le Carvazoé, votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Du soleil une nouvelle fois demain sur la majeure partie du pays, même si quelques nuages bas pourront parfois dans la matinée perturber l'impression de beau temps, notamment de l'Auvergne jusqu'aux plaines de l'Aquitaine. Les températures seront toujours très douces avec de 16 à 23 degrés sur la moitié nord en début d'après-midi et de 20 à 29 degrés sur le sud.